Cher lecteur, bonsoir, bonsoir David.
Bonsoir.
Alors ce soir, pour l'avant-dernière émission du mois de décembre, nous nous retrouvons autour d'un livre très positif, très énergisant, qui s'intitule « Le château des rentiers », qui a été publié aux éditions de l'Olivier, écrit par Agnès de Sarthe. Alors est-ce un roman, un récit, une fable ou une utopie ? Agnès de Sarthe, qui nous a plu tous les deux, aborde au fait un sujet qui nous touche tous, puisque comment aujourd'hui être vieux dans nos sociétés, dans notre monde, et comment éviter justement la solitude, la douleur, la laideur, le rabougrissement, la nostalgie et les épates. Comment vivre jusqu'au bout le mieux possible. Et donc, c'est justement le sujet du dernier roman d'Agnès de Sarthe, qui regorge de souvenirs, de témoignages, de personnes âgées, de pensées, qui raconte aussi ses propres souvenirs, où l'humour, la douceur se côtoient le plus naturellement possible. Alors, c'est vrai que la vieillesse est un thème grave, un thème rebarbatif, et l'écrivaine, qui a 57 ans, et qui prend conscience de son âge, aborde avec une certaine sensibilité et même une fantaisie et légèreté ce sujet. Et elle dit « Vous ne serez peut-être pas heureux d'être vieux, c'est vrai, dit-on dans son magnifique récit, mais efforcez-vous au moins d'être joyeux. » Alors David, je vais vite faire le pitch et puis je te laisse la parole. Agnès de Sarthe, elle parle de ses parents, Boris et Tzila Jampolsky, ses grands-parents maternels, qui se sont installés lors de leur soixantaine avec des amis, la plupart tous rescapés de l'extermination des Juifs, donc d'Auschwitz. Et ils ont eu l'idée de vieillir ensemble. Ça les avait séduits quelque part d'acheter des appartements sur plan et participer à la création d'un phalanstère improvisé. Et donc, ce que Agnès de Sarthe raconte, ce sont justement ses souvenirs en tant qu'enfant de ce gai phalanstère où on ne craignait pas la vieillesse parce que vieillir signifiait plutôt... ça ne signifiait pas finalement être vieux la mort, mais ça signifiait qu'il y avait encore beaucoup de choses à espérer puisque c'était tous des survivants. Alors la mémoire de la guerre, les pogroms et les camps leur faisaient bien entendu relativiser le spectre de la mort et à travers leurs yeux, celle-ci ne représentait pas ce vers quoi ils cheminaient, mais ce à quoi ils avaient échappé. Et donc, elle dit également, elle raconte, donc, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de ses souvenirs personnels, et elle dit « Quand j'allais manger du gâteau aux noix au château des rentiers, je croquais la génoise de l'immortalité. Les portes restaient ouvertes, et c'était assez pratique là-bas, parce qu'on pouvait passer d'un voisin à l'autre, discuter pendant 10 minutes ou 2 heures, emprunter la farine manquant à une pâte brisée, ou même permettre aux petits-enfants en visite de jouer à cache-cache entre les étages. C'était plutôt pratique et surtout joyeux. » Pourtant, cet immeuble, il n'était pas magnifique. Et l'endroit non plus.
Non, mais il y a une... Pour rebondir à ce que tu conclus, il y a une contradiction énorme entre le sujet et le titre. La communauté, elle se crée dans la rue du château des rentiers. Mais le livre se nomme le château des rentiers. Donc ça peut porter à confusion. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les protagonistes, en faisant communauté, héritent d'une richesse qui est immatérielle. Ça s'appelle le château des rentiers, parce que ça a l'air
d'un grand château. Mais je crois que c'était une sorte de château dans lequel il y avait...
Oui, mais la rue, c'est la rue du château des rentiers. Et dans cette rue du château des rentiers, ben, on en fait un château.
Oui.
Dans une rue où il est nommé château,
tout à fait.
On en fait un château. Donc cette richesse, on se la crée de manière communautaire, de manière...
Positive
et de manière... immatériel. Moi, ce qui m'a fort touché, on a eu affaire à Triste Tigre de Neige Sino. Mm-hmm. Ce sont quand même des livres qui m'intéressent. Ce sont les livres matériaux. Mm-hmm. Donc, ce sont des livres qui n'ont pas de chronologie. Alors, des livres importants comme Le poids du monde de Handke ou le livre des fuites de Le Clésio. Le Château des Rentiers est une sorte de journal extrêmement libre. Et la littérature permet, c'est le seul endroit au monde où la littérature, elle permet que les vivants et les morts puissent exister.
C'est tout à fait
alors,
juste.
Alors les morts et les vivants sont dans le livre parce qu'il y a des rêves et parce qu'il y a des projets personnels. Et donc les vivants et les morts se côtoient. Mais comme tu l'as dit, tout ça se fait dans la joie et dans la beauté que... Au fait, l'autrice tente de réparer les tragédies familiales qu'elle accepte de regarder sous tous les angles possibles, sous toutes les coutures possibles, tant de faces que de biais. Alors de face, par exemple, il y a des gros chapitres sur les archives filmées que sa mère accepte finalement de faire, mais de biais, c'est un peu... la question des rêves et des cauchemars. Donc mais on passe d'un chapitre à l'autre, on passe toujours du coq à l'âne, mais c'est un livre qui reste toujours tendre et léger.
Il ne faut pas oublier non plus que l'histoire, et elle le dit très bien, elle a commencé à écrire cette histoire parce qu'elle-même a eu envie, en arrivant plus ou moins à l'âge de ses grands-parents, de créer justement une sorte... en fait, aujourd'hui, on appelle ça un EHPAD, mais de créer une sorte de petite communauté où elle et ses amis, elle va même contacter la banque, elle va contacter une agence pour faire des plans, pour créer justement cette communauté qui permettrait finalement d'échapper à la solitude. Alors, ce qui est vrai dans cette balade improvisée, c'est qu'on retrouve une écriture qui est très énergisante, qui est très vive, et comme tu dis, elle traverse le temps et les générations pour aborder toujours avec légèreté et pudeur, et surtout humour, l'histoire, les questions existentielles les plus intimes. Elle parle même de sa condition d'écrivain, où à un certain moment, elle raconte qu'elle est présente à l'occasion d'une foire de livres, je pense, où elle raconte, elle présente un livre et elle parle de la vieillesse. Et dans le public, il y a une vieille dame qui se lève et qui presque l'injurie en lui disant « Mais comment osez-vous parler, vous, de la vieillesse ?»
Oui, qui l'injurie.
Voilà. Et donc... Ce qui est gai, c'est que, comme tu dis, c'est très honnête comme livre. On a l'impression que c'est presque... c'est même pas trop réfléchi, c'est très instinctif comme livre. Et donc, elle rend aussi un formidable hommage à ses ancêtres qui sont des survivants, à ceux également qui ont péri, à ceux qui ont donc survécu. Et elle ouvre une perspective apaisée. Et elle dit d'ailleurs, je reprends une phrase qu'elle dit, elle dit « L'expérience concentrationnaire est incommunicable, mais elle est infiniment transmissible et même contagieuse. » Et alors elle explique qu'elle est contagieuse jusque à travers des petits détails, comme on l'attrape en mangeant du gâteau aux noix, en écoutant les silences qui hurlent les récits, en contemplant les regards qui paraissent vides avant de se révéler absents. Donc s'il y a en même temps la confrontation de cet enfant entouré d'adultes qui n'a pas vécu la Shoah, qui comprend qu'il y a plein de silences, et en même temps qui sent cette chaleur, cette froideur aussi. Donc il y a vraiment une spontanéité qui se dégage de ce livre.
Il y a une spontanéité, mais il y a surtout aussi... Et c'est assez rare. Il y a un énorme respect dans ce roman pour les personnes âgées. Je m'explique. Les personnes âgées, sans le regard de quelqu'un qui juge ou qui est beaucoup plus jeune, hein, parce qu'elle a quand même 57 ans, bon, voilà. Et il y a un respect pour les personnes âgées, surtout pour ce qu'elles sont capables de réaliser dès lors qu'elles ne sont pas infantilisées, jugées, exclues. C'est comme si elles se mettent en scène avec ces personnes âgées. Mais je pense aussi que c'est surtout d'abord tout cela un motif. Je crois que moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est un livre d'une femme de 57 ans. Mm-hmm. Et donc, c'est un livre sur elle.
Bah, qui prend conscience de son âge.
C'est Agnès de Sarthe atteindra dans moins de 10 ans l'âge qu'avaient Boris, Tsila et leurs amis quand ils ont acquis ce logement, il y a 30 ans. Mm-hmm. Donc, elle ne parle pas de ça. Elle n'a pas parlé de ça il y a 30 ans, mais elle arrive à en parler quand elle s'approche de cet âge-là, à 57 ans. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, l'autrice, Agnès de Sarthe, accepte et nous demande d'accepter la notion du temps qui passe. Mm-hmm. Et ça, je trouve
c'est une belle leçon de vie.
Ça, je trouve très paisible. Mm-hmm. Et vu ses 57 ans, concrètement, la question de son propre être qui va bientôt entrer dans la dite période de la vieillesse. Et je ne pense pas qu'on peut écrire ce livre à 38 ans.
Non.
Et je ne crois pas que c'est un livre qui va intéresser les adolescents. Mm-hmm. Voilà.
Tout à fait. Alors, moi, ce qui m'a aussi touchée dans ce livre, c'est que, en voyant, et c'est ce que j'avais dit sur Instagram, Agnès de Sarthe, j'avais été touchée par la fraîcheur de cette femme, par le côté dynamique de cette femme. Elle a des yeux qui pétillent de vie. Et au fait, ce livre est ponctué de phrases qui marquent. Quand elle parle à un certain moment de la vieillesse, et ça nous fait réfléchir, elle dit « À chaque descente de trottoir, je me retenais de lui prendre la main, le bras, pardon, afin de lui éviter de tomber. Je me force à lui faire confiance, comme il m'avait fait confiance 55 ans plus tôt, alors que je faisais mes premiers pas. » Ce sont des phrases, et il y en a comme ça, plein, tellement délicates, qui font saisir encore mieux ces petites choses qu'on ne saisit pas, justement.
Oui, c'est un roman. Ce roman est comme une allégresse consciente de la somme des joies et même des douleurs qui nous constituent, comme nous constituent les personnes qu'on a été à tous les âges et qui restent là à portée de main à mesure qu'on vieillit. J'avais envie de lire des petits extraits. Ouais. D'un chapitre qui s'appelle « Un projet d'avenir » parce qu'elle revient... C'est un livre sur le mouvement, quoi. Elle dit « À 8 ans, je rêvais à la jeune fille que je serais à 17. Quand 9 ans plus tard, j'ai atteint l'âge rimbaldien, j'avais les cheveux bouclés, châtains courts, j'étais joufflu, plus souple que musclé, je ne conduisais aucun véhicule, pas même un vélo. À 17 ans et un jour, j'ai modelé un nouvel idéal en m'inspirant cette fois d'une amie que je trouvais plus jolie, plus intelligente et plus mûre que moi. Je m'achetais les mêmes vêtements qu'elle. Toutefois, comme nos morphologies étaient différentes, ce qui la sublimait, faisait-elle tantôt une princesse bulgare, tantôt une ballerine de Degas, faisait de moi une brave fille de ferme. Le constat de ce nouvel échec aurait pu mettre fin à ma manie de l'idéalisation, mais non. J'aimais et j'aime toujours admirer. Ça, c'est une phrase importante. C'est mon moyen de transport fétiche. Mmh. Et là, ce qu'elle dit, pour moi, c'est le cœur du roman. Je veux être ce que je ne suis pas. Je veux être là où je ne suis pas. Peu importe que j'y parvienne ou non, car le plaisir est garanti par le trajet.
Bien sûr. Elle est en constante évolution. Elle n'est pas dans la stagnation. Ce qui fait qu'en évoluant, elle développe, bien entendu, sa pensée. Tout ça lui amène des nouvelles expériences. Et ça lui permet aussi à l'écrivain d'être plus compréhensif par rapport à ce que peut-être à l'époque elle ne comprenait pas et qu'en évoluant, elle comprend. Alors il y a une phrase sur la Shoah aussi que j'ai repris, qui est terrible mais qui est tellement juste. Elle dit « L'expérience concentrationnaire est incommunicable. C'est une histoire racontée à des sourds par des muets. On ne peut pas dire mieux. Voilà, j'ai pris du plaisir à lire ce livre qui quand même retrace aussi une ambiance très particulière de ses grands-parents aux soins pour leurs petits-enfants, comme on a tous connu, nous, à l'époque. Et bon, elle fait très bien revivre tous ces moments-là.
Fait revivre des choses ici qui font penser de loin, d'une manière ou d'une autre, à la notion du kibbutz aussi.
Tout à fait.
En Israël. Voilà, je veux dire, la notion du kibbutz, la notion de la fraternité. Moi, pour conclure, je dirais que c'est un livre extrêmement tendre et positif, parce que l'écriture, elle est constituée d'un mélange de styles contradictoires. La tragédie, elle est sous-jacente. Parce que, voilà,
elle est toujours là.
Il y a la Shoah. Mais tragédie et vaudeville s'y mêlent constamment. Et Agnès de Sartre indique, je cite, tu l'as dit dans ton intro, il faut s'efforcer d'être joyeux. Et ça vient d'un proverbe chassidique réécrit par Prévert, qui dit, et je pense que ça, c'est le cœur du roman aussi, il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple.
Exactement. Et alors, elle parle aussi, je voulais encore terminer sur une chose qui fait suite à ce que tu dis. Elle parle du deuil, bien entendu, puisque le deuil est omniprésent. Elle dit faire son deuil, faire sa douleur. C'est donc, dans mon cas, arpenter le manque, chaque recoin le chagrin, soulever une à une toutes les pierres où d'anciennes poussières de souffrance sont allées se loger, cela dans le seul but, non d'oublier, mais de recommencer à fréquenter la personne disparue. Un peu comme après une rupture, les anciens amants qui redoutaient de se croiser sont heureux de se donner rendez-vous, simplement heureux, car la peur, la rancœur, le désir ont déserté l'espace, ni laissant que la douceur de la familiarité. À nouveau, on parle d'évoluer, d'évolution, et non de stagnation.
Un magnifique roman sur le mouvement que nous recommandons.
Merci beaucoup, David. On se retrouve dans 2 semaines pour la dernière des mots d'Anouk pour le mois de décembre. À bientôt.